Vous écoutez
RMC. RMC. 15h-18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
16h04, le Super Moscato Show. On y revient au Mastic, on est sur RMC, bien sûr, 15h-18h. Eric Dimeco est avec nous, Denis Charvet, Adrien Aigouin, mon petit Pierrot, dans demi-heure, caca, c'est le programme.
Alors, dans une demi-heure, Vincent, l'équipe de France a été reçue par le président de la République avant la Coupe du Monde. C'est une tradition voilà, qui se perpétue. Et puis, alors une petite info, infirmerie, top 14, peut-être un petit souci pour Bordeaux. Aïe. On va vous en parler à 16h30 sur RMC. Aïe, aïe. Alors avant cela, l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria était-il finalement un très mauvais président? Vincent règle le problème. Non, si on pose la question comme ça, c'est qu'aujourd'hui l'UEFA examine les comptes de l'OM.
On et le savait donc, un peu avant, non, Pierrot?
Comment?
On le savait qu'il y avait un trou avant, non?
Oui, mais là on ne sait pas s'il y aura sanction ou pas. Non, mais surtout qu'il risque d'être sanctionné de suspension en Coupe d'Europe quand même. D'accord. C'est quand même lourd. Hein.
Tu me diras, c'est pas comme si c'était qualifié déjà. Là,
non, mais Ligue Europa.
La Ligue Europa.
Ouais. Oui. Imagine, ah ouais. T'as même pas le droit d'aller
jouer en pire des cas.
Alors, et puis à 17h, le Racing joue-t-il avec le feu? 32-16. Journal moyen, Adrien, deuxième édition,
plein de choses. Alors moi, c'est une histoire racontée par Eric que j'ai adoré hier dans Rotten sans flamme. Il y a des parents marseillais qui font tout pour éviter que leurs enfants deviennent supporters, qui tombent amoureux du Paris Saint-Germain, avec des tactiques et des techniques parfois malhonnêtes, à la limite de la déontologie. On vous raconte ça avec Eric, du coup, à 16h45.
Histoire vraie, racontée. Je peux pas dire qui, parce que personnalité marseillaise.
J'imagine.
Mais on
en débat à 16h45. Voilà. Moi, je trouve ça extraordinaire ce qui se passe à Marseille en ce moment.
Diversion.
Et puis des nouvelles de Carlo Ancelotti, le sélectionneur du Brésil, qui n'en peut plus. En conférence de presse, des questions sur le mollet de Neymar. Ça y est.
C'est un enfer, ça. Ouais, c'est comme si tu avais entraîné le Portugal avec Ronaldo. C'est la même. C'est ça.
Allez, avant de démarrer c'est sur même, l'OM, on va à Roland Garros. Deuxième set entre Zverev et Rodar. Eric Salio, Sarah Pitkovski.
1h17 de jeu ici sur le central, on joue en indoor, hein, je le rappelle. 1-7-0 donc pour Sacha Zverev qui a été très très bon dans le tie-break, très efficace. Un jeu partout dans la deuxième manche, Sarah. Impression qu'il dégage une force tranquille l'Allemand. Hein.
Oui, beaucoup de sérénité, beaucoup de sang-froid. Mais un match qui est relativement équilibré dans les échanges, même si on sent que Zverev peut en mettre encore. C'est-à-dire que tu sens qu'il joue bien, mais qu'il en a encore sous le pied.
C'est son premier Roland à Rodar, hein, ça joue aussi. Hein.
Donc 1-7-0, et dans le deuxième, ça fait quoi, Eric?
Un partout.
Très bien. 45 sur le service de Zverev. Donc il devrait faire la course en tête. Dans la deuxième.
Avant de démarrer sur l'Olympique de Marseille, je vous rappelle aussi que dans le Kikadi, on vous offre une semaine de vacances pour 4 personnes dans un des 100 VVF de France, au plus proche de la nature, Vincent, pour vous retrouver en famille, partager du sport ou des activités culturelles avec les autres.
Oui. Tu parles comme ça, permet de parler.
Scrabble, de temps en temps.
Voilà, tranquille, quand même, Monopoly.
Ouais, mais
tu cours, on se court après les autres, les bois, tu vois.
C'est celui qui se fait attraper, crac.
Si tu me trouves pas, je suis dans le placard.
Je me suis déguisé en loup.
Allez, tout de suite.
La rosette à l'air, comment ça qui s'est quand même mignon. Allez, hop.
T'as des détails qu'on n'avait pas, apparemment. Allez, tout de suite, Pablo Longoria a vite retrouver du boulot.
15h30, stade de Beauvallon-sur-Oise.
Corruption dans ces championnats de mer.
À l'heure de l'entraînement.
Dans ces championnats de mer.
Depuis que M. Filuccelli a pris en main l'équipe de Beauvallon-sur-Oise.
Je suis sans filtre. J'ai bébé dans mon sac.
Le moral dans les cafés de la ville est bien remonté.
À travers les 5 premiers matchs que
nous avons trouvé celui qui sera capable de redonner à la localité
ces championnats de mer
ses lettres de noblesse footballistique.
On avait une équipe, évidemment, sur le papier qui était fut faible.
Ce jour-là, l'équipe de Beauvallon est menée 2-0 à la mi-temps.
Quand tout le monde il dit qu'il y a des des choses, hein?
Le football vous dit merci, monsieur Filuccelli.
Pourquoi? Quelle est ma nationalité? Il y a beaucoup de choses.
Sont dos cosas distintas.
Moscato, il va te le régler le problème.
Oh, ben là, quand même. Hein. On est bien. Hein.
Alors, donc, l'OM joue gros aujourd'hui. L'UEFA examine son cas et le déficit colossal peut coûter cher jusqu'à une exclusion de la Ligue Europa. C'est l'héritage de la gestion Longoria. L'ancien président a pris des risques pour faire de l'OM une grande équipe. Et comme le pari a été perdu dans les grandes largeurs, il ne reste que le désastre financier. Était-il donc un très mauvais président, finalement, lui qui a été quand même très apprécié à un moment par les supporters. Vincent règle le problème. Alors, le détail sur ce qui se joue aujourd'hui avec Kevin Morand.
Salut. Bonjour Pierre, Kevin. Salut à tous.
On va dire qu'il y a une petite partie de son avenir que l'OM joue là.
Oui, parce que l'UEFA pourrait ne pas du tout apprécier que l'OM n'ait pas tenu ses engagements. Retour en 2022, le club phocéen signe alors un accord de règlement avec l'instance européenne. En échange d'une amende réduite, Marseille s'engageait à revenir à un déficit qui ne dépasserait pas les 60 millions d'euros sur 3 ans. Problème, le déficit était finalement de 157 millions d'euros sur la période, d'après la DNCG. Largement hors des clous donc, et le trou s'est creusé de plus en plus, avec plus de 100 millions d'euros sur la seule saison 2024-2025. Pour sa défense, Marseille peut rappeler que les droits télé de la Ligue 1 se sont effondrés, que les dirigeants ont récemment changé pour redresser la barre. Franck McCourt reste aussi un propriétaire solide, capable de combler les pertes, ce à quoi l'UEFA est très sensible. Mais l'exclusion de la Ligue Europa est une possibilité, la pire sanction possible dans le panel. Elle est rare, mais l'AC Milan et la Juventus Turin l'ont connue ces dernières années. Il faudra attendre plusieurs jours encore pour être fixé. Mais pour l'OM, une exclusion aggraverait encore la situation en le privant d'une manne financière, Lyon ayant ainsi gagné 40 millions d'euros cette année comme 8e de finaliste de la C3.
Merci Kevin. Vincent, alors,
c'est triste. C'est triste pour l'OM, s'ils sont suspendus. C'est catastrophique. Bon,
c'est la sanction suprême, hein. C'est pas certain suprême, que ça finisse comme ça, hein, mais c'est la menace, quoi.
Terrible. Mais c'est terrible. Mais ce que tu veux que je te dise, Pierrot, c'est toujours le problème des gens, mais c'est la vie en général.
Est-ce que tu vois le bilan de Longoria uniquement à travers ce prisme-là, c'est ça, en fait?
Mais c'est général. C'est quand tu gères l'argent qui ne t'appartient pas, à chaque fois, ça finit en catastrophe. Lui, c'est pas son oseille. Et comme il veut réussir à tout prix, comme c'est pas son oseille, 60 millions, pas plus autorisés de faire des déficits. Sur on arrive ans, à 160 hein. millions et 100 millions la dernière saison. Je vais te dire, si c'est ton oseille, tu fais jamais ça. C'est le problème des mecs qui font des chèques, c'est pas leur oseille. C'est les mecs, ça vit à crédit, ça fait plaisir à crédit. Bon, il n'y a pas que lui qui fait ça. Je vais te dire, on va pas faire un édito, mais à un moment donné, faut rembourser et les sanctions tombent. En club, ça tombe plus que ailleurs dans la vie de tous les jours. Mais là, il va falloir que là, il va falloir rembourser. C'est grave, c'est très très grave. Tout le monde s'en fout, il n'y a qu'à recruter. Le mec dit ouais, on n'a pas pris en avance. Les droits télé, mais les droits télé, c'est pour tout le monde. J'ai bu un café, moi, avec le président du TFC en début de saison, en septembre ou en octobre. Mais réduction de 20 ou 25 millions. Ben, les mecs, ils vendent, imagine, ils s'adaptent. Mais tu consommes moins. Où t'as vu, dans quel état dans le monde. Enfin, non, c'est un mauvais exemple, excuse-moi. Parce que là, c'est le contraire, justement. C'est moins t'as d'oseille, plus tu fais des frais. Mais où t'as vu que dans la vie de tous les jours, Pierrot, si t'as pas les sous, tu consommes. Ça n'existe pas. À un moment donné, t'es rattrapé par la patrouille. Encore une fois, Longoria, il a été pris parce qu'il est dans un milieu où, comme c'est pas ton oseille, c'est la gabegie.
Donc, un mauvais président, mais c'est surtout
un mauvais président, oui, mais il a été élevé dans ce milieu. Alors, en plus, à Marseille, ils avaient la folie des grandeurs. C'est-à-dire, tu sais pas quel est le budget, parce que 300 millions, quand t'as 150 millions de trous, ça veut dire que t'en as 400. En vérité, t'as fonctionné avec 400. Donc, le problème, t'as 400, mais en vérité, il faudrait que tu fonctionnes avec 200. La réalité, il faudrait que tu fonctionnes avec 200. Mais là, bon, comme tout le monde se brûle les ailes, et voilà, tu vois. Alors... Et puis, t'as la pression populaire qui veut toujours qu'on recrute un grand avant-centre. Les mecs, c'est un peu normal, mais bon, c'est catastrophique, alors, ce que je te disais. Un moment pour se relever.
Qu'en penses-tu, Eric Dimeco?
Le constat est terrible parce que malheureusement, quand tu veux faire le bilan, tu es obligé d'attendre. Là, ça faisait 5 ans, c'est ça, tu as dit, Pierrot, de présidence, Paolo Longoria.
Plus, non, 7 ans.
Alors, en tant que président, je vais te dire exactement, mais ça fait plus de 5 ans qu'il est au club, en tout cas.
7 ans, oui, mais ça doit être 5 ans. Enfin, toujours est-il que c'est sûr qu'il est parti. On peut faire un bilan et souvent quand les gens s'en vont et que
5 ans de présidence, il était là avant, voilà, en tant que directeur sportif.
Tu découvres les côtes, tu peux faire le vrai bilan. tu sais, la différence entre un bon président et un mauvais président, je pense que c'est des fois, tu sais, c'est un ballon qui rentre ou un penalty pas sifflé ou qui peut générer cet avis positif aussi. Ou négatif. Là, il y a quand même un constat, c'est que on a eu des dirigeants, et je dis dirigeants parce que il n'était pas seul. On a eu des joueurs de poker. On a eu, ou alors ceux qui font la cavalerie, là, Vincent, hein, c'est comme ça que ça s'appelle.
Ouais, c'est ça, cavalerie.
Ou jouer à la roulette. En doublant, tu perds 100 euros, tu doubles, tu mets 200 sur pair et impair, tu perds, tu mets 400. Et sauf qu'à un moment donné, ben, quand tu as perdu tout le temps ou quand tu as gagné juste 2 fois sur 5, eh ben, malheureusement, tu perds beaucoup d'argent.
Tu joues avec l'argent que tu n'as pas.
Et tu joues avec l'argent que tu n'as pas. J'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé, mais. Pierrot, moi je suis pas étonné parce que on aurait dû avoir des signes, ou en tout cas on aurait dû s'en douter. Rappelle-toi l'an dernier, début de saison, quand je vois encore les mouvements, quand je te dis c'est pas normal, et et d'ailleurs ça m'a été reproché par certaines au club qui ne sont plus là et qui nous laissent trop aujourd'hui. À l'époque j'avais dit, mais quand je vois ce qui est fait au niveau des transferts, des gens qui restent, de ceux qui partent, de ceux qui reviennent, de ceux qui partent à la trêve hivernale, estivale, j'ai dit, est-ce que ils travaillent dans l'intérêt du club, ces gens-là? Et c'est ça là peut-être la limite que veut expliquer Vincent, c'est que les mecs chez nous ne sont que de passage, ils ont aucune attache au club, donc ils tentent le coup de poker pour se faire mousser. Si ça marche pas, ils se cassent, ils s'en foutent, ils laissent rien ici, hein. Ils ont pas de famille, ils ont pas d'attache, ils ont
pas d'amis. Il a déjà rebondi, lui, hein.
Ils ont déjà trouvé des clubs, parce que en plus quand tu fais 500 000 transferts en 2 ans, tu as des contacts dans tous les clubs, et un jour ou l'autre on te renvoie à l'ascenseur. Donc, le cocu c'est le club, et à l'arrivée, quand tu fais 150 mouvements en 5 ans, comment tu fais pour gagner de l'argent? Comment tu fais quand tu achètes Vitinha 35 millions, que tu le revends je sais plus combien,
le chiffre
exact, 30
mouvements en 5 ans.
260 mouvements. Voilà. Donc, moi, à l'époque, quand j'ai dit ça, c'est que pour moi, je parlais sportivement. Je parlais même pas financièrement. Je me posais la question, je me demandais si ce que faisaient les dirigeants de l'OM, c'était l'intérêt sportif du club ou si c'était leur intérêt. Bon, ils l'ont mal pris parce qu'ils pensaient que je disais qu'ils volaient des sous. J'ai jamais dit ça, moi. Parce que si j'ai envie de dire qu'ils volent des sous, si je sais qu'ils volent des sous, je dis ils volent des sous. Mais moi, je sais pas, moi, ça. Donc, voilà. Donc, moi, c'était juste l'intérêt. C'était juste que pour moi la cohérence sportive ça collait pas. Tu ne peux pas construire une équipe en faisant ça, et en plus tu perds de l'argent tout le temps puisque tu surachètes les mecs et tu les sous-vends du coup, parce que les mecs ils te voient arriver gros comme des maisons. Nous on est les spécialistes pour surpayer les mecs et se faire fumer quand on les vend. Donc, et à l'arrivée il arrive ça. Donc le constat est terrible, ton débat est un peu provocateur, sauf que aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui se sont amusés avec notre club, qui se sont amusés avec l'argent. Mais moi, tu sais à qui j'en veux ? Moi, j'en veux à l'actionnaire, Pierrot. Comment l'actionnaire, à un moment donné, il a pas dit, oh les gars, mais comment c'est possible ? Tous les ans, je recrache au pot. Tous les ans, je vous dis, les gars, on essaie de faire un truc cohérent, de pas mâcher. Et tous les ans, quand Alexis Sanchez, il arrive, il flambe, on le dégage pour prendre un autre, deux autres, parce que chaque fois, tu les remplaces par deux, qui coûtent. Et les salaires qui sont donnés, les gars, les salaires, c'est-à-dire que pour... on compte pas dans ces histoires-là, parce que je pense qu'on va avoir d'autres cadavres dans les tiroirs. C'est qu'il y a beaucoup de transferts qui ont été faits avec un paiement décalé, c'est-à-dire que pendant que tu n'es pas en Coupe d'Europe ou que tu n'es plus en Coupe d'Europe, Ligue des Champions, ou que peut-être on n'y sera pas, ou bon, il en faut beaucoup quand même pour être sorti de la Ligue Europa, mais pourquoi pas, c'est peut-être possible. Et je vais te dire la vérité, selon l'entraîneur qui arrive, peut-être que pour reconstruire, il vaudrait même pas la jouer cette compétition. Moi je suis content de la jouer, mais j'ai des échos de certains entraîneurs qui pourraient venir, qui te disent bah, peut-être que sans la Ligue des Europa je peux reconstruire plus facilement, parce que je suis pas obligé de prendre 25 mecs. Non, c'est pas galette, c'est les gens du milieu du football qui connaissent le football et qui m'expliquent que peut-être c'est pas plus mal pour le nouveau qu'il n'y ait pas cette charge de trucs. Mais mais vous verrez qu'on va retrouver encore des cadavres. Alors, et donc ils ont laissé un cimetière. Voilà.
Et était-il finalement un très mauvais président? Avant l'avis de Denis, le point sur Zverev Rodar avec Sarah et Eric Roland Garros.
Ouais, l'Allemand est en train de faire la différence dans ce quart de finale qu'il oppose au jeune Rodar. Il fait un peu son âge, hein, il n'a que 19 ans, manque un peu d'expérience. Ça se traduit au tableau d'affichage, Sarah. 7-6-6-3 pour Sacha Zverev.
Non, pas encore 6-3, 7-6-3.
Hein. Ouais,
c'est 6-3. T'emballe pas. Il est encore dans le coup dans la deuxième manche.
Vous allez voir que ça va faire 6-3. Hein.
Oui, peut-être, mais a priori, t'es pas mentaliste. Là, hein.
Dire, je l'avais dit.
Je l'avais dit, ouais, c'est un peu facile. Super. Moi aussi, j'avais dit que Zverev, je le voyais gagner Roland-Garros. Mais pour l'instant, effectivement, là, Zverev, il est en train de mettre sa patte véritablement sur le match. Et Rodar, qui cherchait en début de match à glisser pas mal d'amortis, là, il s'est dit, je vais essayer de tenir les rallyes au fond du court, mais ça marche pas non plus.
Donc on revient à notre débat sur l'OM. Finalement, Longoria était-il un très mauvais président, Denis?
Écoute, ça serait prétentieux de dire que Longoria est un très mauvais président, parce que je suis mal placé, mais en même temps, le résultat est catastrophique, le bilan est catastrophique, c'est une faillite globale. Mais en même temps, j'ai envie de dire que c'est une erreur de casting dès le départ. Pour moi, Longoria, il n'avait pas le costume de président. Quand tu vois tout ce qui s'est passé, tous ces emportements, il n'a pas pris la hauteur sur certaines difficultés, notamment quand il y a eu la bagarre dans le vestiaire. Il aurait dû être plus dur, plus présent, et surtout ne pas arriver au clash. Mais après, je trouve qu'il s'emportait trop facilement et il sortait souvent de son rôle de président. Et pour moi, je trouve que c'était pas un président. Voilà, je pense que.
Pierrot. Oui. Denis, ces crises de nerfs là régulières qu'il a pris peuvent s'expliquer par le fait que un président, il a une tension
par le risque
normale.
Financier.
Il y a un risque sportif, un risque financier. Et en plus, tu joues ta crédibilité et tout. Mais là, j'ai l'impression que ce qu'on découvre aujourd'hui explique le comportement des dirigeants, c'est-à-dire que ils jouaient plus que du sportif. C'est-à-dire qu'il jouait la survie du club, ou en tout cas la pérennité économique du club. Parce que là, si te manque 150 millions, alors que et que tu n'es pas en Ligue Europa, pendant combien de temps le club il est sclérosé là? Combien de temps le club va mettre à s'en remettre? Ouais, c'est pas très facile, mais ça passe. Mais il n'empêche que ça peut s'expliquer que les mecs, chaque match, ils jouent leur vie. Ou en tout cas, ils jouent leur crédibilité.
Alors, en tout cas, certains pensent quand même que Longoria reste un bon président. Ouais. Et il y a des explications. Kevin au 32-16. Bonjour Kevin.
Salut Kevin.
Oui, bah, Kevin. Non,
bonjour. Bonjour les gars, comment vous allez?
Très bien. Écoute, salut Kevin.
Ça va, ça s'accroche.
Ouais, on s'accroche.
Longoria est parti,
de l'OM, les gars.
Dis-nous.
Alors, je vous ai bien écouté. Alors, déjà, petite précision. Hein, c'est 259 transferts aller-retour sur la présidence de Longoria en 5 ans. Ouais. Donc, pendant quelques temps, j'ai eu l'impression. Alors, c'est info de vos collègues de l'équipe hier soir, l'équipe du soir. J'ai eu l'impression parfois de supporter le FC Porto à ces grandes heures où ils faisaient des coups pour essayer de vivre avec
sauf
les...
Sauf qu'eux, ils gagnaient de l'argent. Hein.
Et sauf qu'eux, ils gagnaient des Ligues des Champions, surtout, Eric.
À plus, tu as raison.
Bon, tout ça pour vous dire que moi, je suis très content que Pablo Longoria soit parti. Le costume, comme disait Denis, c'est pas une erreur de casting pour moi, Denis, c'est plutôt que le costume était trop grand, il est arrivé.
Au sens propre, hein, comment ça se figurait, parce que des fois, il était costume le ciel, il avait le costume trop grand.
Pablo Longoria, faut pas oublier, messieurs, qu'il est arrivé dans un certain rôle, plutôt dans le sportif, ancien agent, donc voilà, il était bien dans ce rôle-là, et après, très jeune aussi, donc un poste comme ça, responsabilité, dans un club comme l'OM qui demande des gens aussi un peu avec du calme. Je pense que c'était pas possible pour lui. Et on voit comment ils ont réagi tous cette année. Moi, je veux dire, dès le démarrage de l'année avec l'affaire Rabiot et Rowe dans le vestiaire, on savait déjà que l'année elle allait partir en cacahuète.
Est-ce que tu as été un fan de la première heure ou pas, toi, Kevin?
Alors, au départ, non, ce que j'ai aimé, Pierrot, moi, c'est que cette capacité à Longoria de pouvoir revendre des joueurs très rapidement quand on s'apercevait qu'on faisait une erreur sur le transfert. On a eu beaucoup de joueurs qui sont arrivés l'été, qui sont repartis l'hiver parce qu'au bout de 6 mois, on voyait que ça n'allait pas le faire.
Il y en a eu trop peut-être, non? Ça veut dire qu'ils se sont beaucoup trompés peut-être.
Alors, un autre point de vue, celui de Xavier. Salut Xavier, 32-16.
Salut Xavier.
Bien, bonsoir, messieurs.
Alors, est-ce que tu n'es pas tout à fait d'accord avec Kevin, j'ai l'impression?
Alors,
À son débit, effectivement, le nombre de transferts qui est assez faramineux et qui n'aide pas à la stabilité du club, ça c'est contre lui, effectivement. Mais à son crédit, bah, comme le disait Kevin,
quand même.
Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a bon, en termes de stabilité.
On tourne autour du pot, mais en vérité, on tourne autour du pot, mais on se comprend quand même qu'il y a 260 transferts.
Tu peux le penser, mais on n'en a pas de preuve, on n'en a pas d'info.
Je le pense fort, Pierrot. Ça jette un peu la suspicion. La suspicion, ça ne veut pas dire la culpabilité.
Exactement.
Par contre, si je puis amener un petit peu de haut à son moulin à lui, au pauvre Pablo, c'est que malgré tout, ce n'est pas lui qui était sur le terrain à faire les cagades qu'ils ont faites, notamment à Bruges ou face à Liverpool, par exemple.
Ouais, mais t'es responsable. C'est toi le chef.
Oui, mais bon, ça part toujours du sportif, parce que admettons que ça ait tourné dans un autre sens, eh ben on aura peut-être encensé son audace du transfert, son flair pour les bons coups. Enfin voilà quoi, ça part toujours du sportif.
Non mais c'est vrai que ce que dit Xavier, ça peut se défendre tout simplement parce que sur le moment, c'est vrai que les supporters de l'OM sont contents de voir arriver un Alexis Sanchez, sont contents de voir arriver un Adrien Rabiot ou un Aubameyang.
Et puis il y avait une fraîcheur un petit peu avec tous les habituels dirigeants qui sont tous pré-retraités, voire retraités, voire post-retraités pour certains. Lui, il arrive avec une certaine fraîcheur et une petite Zorro, tout ça. Voilà.
Xavier, ouais. à la limite que Pablo Longoria soit un bon directeur sportif parce que il a un réseau, il a
des idées,
il a aussi une base de données. Je pense que maintenant ils travaillent tous avec parce que il a tâté des coups qu'on connaissait pas. Moi, j'ai vu arriver des De La Fuente, je pourrais même plus te dire les noms des mecs qui sont arrivés. Donc ça à la limite, pourquoi pas. Sauf que au dessus, il aurait fallu un président justement qui le cadre et qui lui donne un cadre.
Là, il était président. Et là où je suis de son propriétaire.
Voilà, non mais c'est pour ça que moi, tu sais, j'en veux beaucoup à l'actionnaire malgré tout, parce que tu ne balances pas des millions comme ça sans jamais contrôler, sans jamais tirer la sonnette d'alarme, sans jamais venir tirer les oreilles au mec, c'est pas possible. Et pour ce que tu as dit,
souviens-toi, Eric, presque chaque été, Florent Germain venait nous expliquer que Longoria avait réussi son coup en persuadant McCourt qu'en investissant encore et toujours, ça allait aller.
Mais il a peut-être le pouvoir de séduction super aussi, et tant mieux, ça lui a permis de travailler.
Comment c'est possible,
là où je suis d'accord avec Xavier, moi j'ai toujours mis la responsabilité des joueurs. Donc bien sûr que les joueurs, c'est eux qui nous ont fait honte cette année. Il n'y a pas de souci. Sauf que, Xavier, en faisant 260 mouvements en 5 ans, est-ce que c'est la logique, c'est de ne pas avoir de résultats ou d'avoir des résultats? Moi, je vais à l'inverse. Si, en faisant 260 mouvements en 5 ans, tu as une bonne équipe sur le terrain, l'antithèse du football. Le football, c'est la continuité, c'est le travail à long terme, c'est le calme, la sécurité. On va pas parler de nos amis parisiens, mais c'est ce qu'ils vivent en ce moment, avec beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de talent. Mais malgré tout, ils pourraient s'enflammer à changer 5 mecs chaque année. Ben non, ils gardent dans la continuité, ça gagne. Et tu regarderas tous les grands clubs. Et même les clubs moyens qui font des coups, ils travaillent sur le long terme. Ce que tu dis, le problème, c'est que tu ne peux pas avoir de réussite sportive, d'après moi, en faisant 260 mouvements en 5 ans. C'est pas possible. Ou alors, si tu le fais, c'est anti-foot, quoi.
Merci
Xavier, à Kevin, ouais, Vincent, pour finir.
Je pense qu'en vérité, tous les papiers qu'il avait, comme quoi c'était un mec qui avait des réseaux et tout ça, des réseaux, mais réfléchissez. Il n'a pas jamais été entraîneur, il n'a jamais été joueur, il avait 38 ans, 40 ans. Et donc lui avait des réseaux. Et comment tu fais à 34 ans pour avoir des réseaux?
Sur son CV, de 2015 à 2018, il est directeur du recrutement de la Juve.
Mais c'est des saucissonnades.
C'est le boss du recrutement de la Juventus Turin.
Mais je te dis que l'escroquerie a marché depuis le début. À 34 ans, t'as jamais joué au foot, t'as jamais été entraîneur, t'as jamais été préparateur physique, t'as jamais été président. Et par contre, c'est un mec qui a des réseaux, qui connaît tout. Mais c'est du pipeau. L'escroquerie a été magnifique, je vous le dis, il n'y a aucune raison, il n'y a que dalle qui existait.
Dans un instant, on va retourner à Roland-Garros où pour l'instant ça se passe bien pour Zverev face à Rodar. Et puis, on va essayer de comprendre le comeback de Serena Williams. L'info du jour, supporter bordelais, c'est la blessure de Mathieu Jalibert. À tout de suite.
Non, on est cuit. 16h28, le Super Moscato Show, on vient tout de suite.
RMC jusqu'à 18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Il est 16h33, on est dans le Super Moscato Show avec Eric Dimeco, Denis Charvet, Adrien Aigouin, mon petit Pierrot, dans une demi-heure, fais-moi claquer le programme.
Dans une demi-heure, Vincent, on se projette sur la dernière journée de Top 14. Le Racing joue-t-il avec le feu, avec ses gifs, Vincent, ses joueurs formés en France? Tu sais qu'on a une obligation d'aligner des joueurs dans un certain nombre. Ils sont en retard. Donc pour la dernière journée, ils vont devoir rattraper le retard.
Minimum une paire de gifs, autrement des bouffes.
Voilà. Voilà, allez, d'abord Roland Garros, Eric Salio, Sarah Pitkovski, ça va, tout va bien pour Zverev face à Rodar. Hein.
Comme j'avais dit, 7-6, 6-1.
Ah non. Ça marche pas, ça, Eric.
Quoi, vous avez la bande, malheureusement?
Oui.
Non, il est impressionnant, Sacha Zverev, 2-7 d'avance, donc après 1h45 de jeu, je trouve extrêmement serein. Je pense qu'il est programmé pour gagner.
Parfait. On revient très vite. On va parler de Serena Williams dans le Moscazap.
RMC, le Mosca.
Alors, avant Serena Williams, l'info toute fraîche, c'est pas une bonne nouvelle pour l'Union Bordeaux-Bègles. C'est la blessure de Mathieu Jalibert, touché à un mollet, alors qu'il pourrait devoir observer une période de plusieurs jours de repos. Donc, il est très incertain pour Clermont et pas certain non plus d'être rétabli pour un éventuel barrage. Hein. La semaine suivante, il s'est blessé à Toulon alors qu'il n'a pas joué, qu'il a accompagné l'équipe, et il se serait blessé juste avant
l'échauffement.
Ouais, c'est ça, sur une séance de compensation.
24e homme à Toulon,
juste avant le coup d'envoi. Coup dur pour Bordeaux, Vincent. Hein.
Bah ouais, non, coup dur pour Bordeaux. T'as vu la saison qu'il fait, il les porte à bout de bras avec Lucu, la charnière, c'est la meilleure du moment, la meilleure même en Europe du moment. Donc ouais, gros coup dur.
Denis, gros coup dur parce que d'abord il faut gagner Clermont. Si tu gagnes avec le bonus offensif, c'est mieux. Mais voilà, lui c'est vraiment c'est l'homme providentiel. Non, c'est celui qui fait tourner tout Bordeaux.
La machine.
Il est capable de battre Clermont.
Oui,
sans
bien
Jalibert,
sûr.
Hein.
Non, mais devant, il va être complet, ça va être costaud. Oui, non, mais normalement.
Non, mais ils peuvent gagner ça, Jalibert.
Et puis Clermont,
Clermont est pratiquement
éliminé, donc.
Tu le vois à l'horizon, si tu veux faire une demi-finale ou une finale et que lui a été amoindri par une blessure faite dans les 15 derniers jours, bah, tu sais que ça va péter Jalibert plein pot. Et donc, c'est compliqué, quoi. C'est pour ça que t'as peur. C'est pas pour Clermont que t'as peur. C'est pour la suite.
C'est pour les barrages, en fait.
Toutes les infos sur rmcsport.fr. L'histoire est quand même dingue. Il a participé à une séance à Toulon de compensation juste avant le coup d'envoi, initialement programmé pour les joueurs hors groupe qui ont besoin de travailler. Sauf que Jalibert aurait dû être au repos et ne pas participer à cette séance mise en place par la cellule physique. Une erreur, donc, nous dit Nicolas Polorsi, qui pourrait coûter cher à l'UBB. C'est vraiment pas de chance, ça, pour le coup.
Si tu te blesses là, tu peux te blesser le lendemain à l'entraînement quand il y a du physique.
Oui, mais Eric, tu prends du repos supplémentaire car tu es prévu d'être au repos.
Oui, mais ça, c'est prévisible.
Oui, mais c'est prévisible. Et puis bon,
tu vas être foudrage quand t'es le staff là, quand t'es brûlant.
La vérité, c'est que bon, ils l'ont bien fêté le titre. Après, voilà, c'est les conséquences. C'est malheureux pour Bordeaux. Et bon,
je pense pas que ce soit les conséquences. C'est pas les conséquences de la fête. Pierron,
ça personne ne peut le savoir.
Oui, on peut pas le savoir, c'est pour ça. Oui, mais c'est pour ça qu'on peut pas le dire.
Non, mais vous-même, Denis et Vincent, vous aviez dit c'est peut-être un peu trop les 3 ou 4 jours de bringue.
Oui, non, mais alors Jalib, sincèrement, Jalib, je pense pas que ce soit. Il accélère pas. Hein, donc, il accélère mollo. Lui, c'est plutôt un danseur. Lui, c'est plutôt un danseur. Tu vois, un mec qui fait du rock.
Un danseur de tango.
Un danseur de tango.
C'est un mec qui est un danseur, il a dit.
Oui, c'est plutôt un mec qui attaque les slow, tu vois, qui attend là, qui est, tu vois, la bête sauvage, lancée.
Vous avez tous les détails sur rmcsport.fr. On zappe, on reparle tennis. Avec le retour, donc, c'est confirmé, de Serena Williams à 44 ans. Alors pour l'instant, c'est en double. Hein. C'est le tournoi du Queens sur Herbe qui l'a annoncé. Donc, communication officielle de la direction du tournoi. Pour l'instant, elle n'est pas alignée dans un tournoi de simple. Léna Marjac nous rejoint pour parler de Serena Williams. Bonjour Léna.
Salut tout le monde.
La question que tout le monde se pose, sera-t-elle au niveau, Serena?
Bon, on aura surtout la réponse à cette question la semaine prochaine, hein, quand elle sera arrivée en Angleterre au tournoi du Queens. Alors oui, tu l'as dit, Pierrot, ce ne sera que du double. Serena jouera avec la jeune Canadienne Victoria Mboko, mais ça donnera déjà quelques indications sur son état de forme. Et c'est un retour, il faut le dire, hein, qui surprend, qui fait aussi parler. Il ne faut pas l'oublier. Elle a 44 ans, elle est maman de 2 enfants, elle n'a plus joué depuis l'US Open 2022, ça va faire presque 4 ans. Et donc si elle revient, ce n'est sûrement pas pour rien. Et c'est d'ailleurs la conviction de John McEnroe, écoutez-le, l'ancien numéro 1 mondial américain.
Je suis vraiment surpris. Je pense qu'elle jouera un peu de double et peut-être jouera-t-elle en simple à Wimbledon. Oh mon Dieu, ça serait incroyable. Ça serait très intéressant. Elle n'est plus toute jeune, mais bon, c'est Serena Williams. Alors je parie qu'elle revient avec l'ambition de tout rafler, mais je ne suis pas sûr de ses plans. Elle ne m'a pas appelé pour me les communiquer.
Alors ses plans, est-ce que ce serait aller chercher un 24e titre du Grand Chelem, viser les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028, en simple, en double? Voilà, plein de questions qu'on se pose évidemment, mais Cédric Pioline, ancien joueur français, lui n'est pas très convaincu par ce retour.
Ça va créer du buzz, ça c'est sûr. Maintenant, c'est à elle qu'il faudrait poser la question, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle revient? Elle est maman, c'est une immense star, elle a achevé tellement de choses. On connaît cette vie, je pense qu'au bout d'un moment, on est peut-être content aussi de plus la vivre, parce qu'elle est contraignante. Je suis un peu curieux, en tout cas, de savoir quelle pourrait être sa réponse, hein, puisque quand on s'arrête, s'entraîner, enfin, se remettre en forme, il y a beaucoup de travail derrière, donc c'est un peu surprenant.
Et en tout cas, Serena Williams avait posté une vidéo sur ses réseaux sociaux il y a quelques temps où on la voyait justement sur un terrain de tennis et elle avait l'air plutôt affûtée. En tout cas, elle avait perdu pas mal de poids. Donc à voir. Réponse la semaine prochaine.
Merci Léna. Donc pour l'instant, on est d'accord, c'est pour jouer en double et on l'imagine pour certains en tout cas, s'aligner en simple à Wimbledon, ce qui serait complètement dingue à 44 ans après 4 ans de retraite. Il n'y a que Lindsey Vonn qui a réussi un truc pareil. Hein. Faut en vouloir là.
Oui, mais après, en plus, ça, c'est des tournois. Tu fais 4, 5, 6 matchs si tu veux aller au bout. Ça paraît très compliqué à 44 ans de pouvoir récupérer
c'est
entre.
7 ans, entre.
Ouais, non, 7, t'imagines.
C'est curieux de revenir comme ça à 44 ans. Moi, je trouve ça curieux. Bah, tu sais, elle court toujours après le record.
Oui, il y a pas que non, mais il y a pas que ça. On peut imaginer quand même. Enfin, moi, si j'avais fait un sport où il y a pas de contact, il y a pas de blessure, et c'est juste tu t'arrêtes parce que mentalement tu es épuisé, physiquement tu es épuisé, tu en peux plus de parcourir le monde. Si 10 ans après j'avais fait un sport où qui me permet de revenir, mais et pour le plaisir, parce que elle revient pas pour les sous, elle revient pas pour la gloire, elle revient pas. D'après moi,
peut-être
elle
pour
a
la
juste...
gloire, elle a toujours échoué,
oui,
et toujours
mais,
buté sur ce 24e titre du
Grand Chelem. Non mais, et à la limite, si elle revient par ambition sportive, mais c'est génial. Mm-hmm. Mais moi, je reviens de suite, moi. Mais si, personne n'a la force. Il y a pire comme métier. Il y a pas. Mais on s'en fout de l'assurance. Bah, c'est juste le plaisir. À 40 ans, tu pratiques ton sport encore à un très haut niveau, puisque elle va faire des bons tournois. C'est le très haut niveau là. Même si tu es 7e mondial, c'est le très haut niveau. Tu continues à pratiquer ton sport et tu kiffes parce que tout ce qui te gonflait, c'est passé maintenant. C'est-à-dire que. Putain, mais moi, je
là,
le
ferais. Tu serais prêt à nous lâcher,
Sarah.
Tu serais prêt à nous lâcher, là.
Sarah. Vous voulez vraiment mon avis?
Oui.
Bah, je comprends pas.
Tu comprends pas.
Je vois pas l'intérêt. Comme elle dit, comme Léna dit, elle. Mais faire plaisir de quoi?
Attends.
Mais de traverser le monde. Mais non, mais elle a pas besoin de ça pour faire du sport. Moi, je comprends pas. Et on va se dire la vérité, hein. 25e titre, c'est pas possible. C'est
pas
intouchable.
Possible,
mais non, c'est impossible.
C'est pas possible. Mais bien sûr que c'est pas possible.
Mais donc en fait, revenir, pourquoi?
Mais alors, il y a un
kiff de se faire ridiculiser, par des filles qui sont dans le dernier carré d'un grand chelem.
Mais ça sera pas très grave si ça se passe mal.
Mais non, mais c'est pas. Non, mais vous savez quand même.
Non, ce sera pas grave. Absolument pas. Non, ce sera pas grave, mais je cherche l'intérêt, en fait. L'intérêt de quoi? De se faire balader sur des échanges où elle n'aura pas le physique pour, en fait. 4 ans. Je comprends, Eric, quand tu dis que c'est pas un sport de contact. On est d'accord. Mais pendant ce temps-là, le tennis féminin avance. Ça joue plus vite. Ça frappe plus fort. Donc, en fait, les qualités qui étaient celles de Serena Williams, elles peuvent pas exister.
Et si elle a mis de se lancer un défi.
Dernier mot, Eric.
Alors.
Non, mais il y a des mecs qui ont fait du sport de haut niveau. Ils s'arrêtent. De coup, tu
joues
le vois faire du
triathlon. Tu
le vois faire le marathon de New York, tu vois, les mecs qui essaient de faire des performances, et parce que c'est l'essence de ta vie, tu as fait du sport toute ta vie et tu te lances des challenges, et elle se dit bah tiens, j'ai envie de me mesurer aux petites jeunes, et
qu'est-ce qui est grave, c'est une chose qu'elle a envie,
mais qu'est-ce qui est grave, qu'est-ce que tu veux qu'elle
ait, je ne vois pas l'intérêt. Le seul que je verrais
c'est
peut-être
l'oseille.
Non, c'est peut-être de viser le double à Los Angeles 2028. C'est le seul,
les JO.
En simple, elle peut pas. Mais elle pourrait, comme c'est aux États-Unis, elle pourrait demander une wildcard. Alors, me demandez pas si c'est avec sa sœur, parce que sa sœur, elle en aura 48.
Peut-être.
Mais peut-être que c'est ça.
Allez, voilà. Le point sur Zverev, Rodar, le score, juste Eric Salio.
2-7-0 pour Sacha Zverev, 7-6-6-1 et déjà 2-0 pour le grand favori de ce tournoi dans cette troisième manche.
Adrien, le journal moyen.
Le foot est dingue. Des parents marseillais font tout pour éviter que leurs enfants tombent amoureux du Paris Saint-Germain. Oh. Histoire que nous a raconté Eric Dimeco hier dans Rotten sans flamme. C'est génial, c'est tout de suite dans le journal moyen, deuxième édition.
Allez, on revient tout de suite, il est 16h43, on revient.
RMC jusqu'à 18h, le super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Il est 16h48, on est dans le super Moscato Show, c'est le journal moyen. Adrien Gouet, deuxième édition.
Deuxième édition, des parents marseillais font tout pour éviter le drame. Oui, affreux, pour éviter que affreux. Leurs enfants tombent amoureux du Paris Saint-Germain. Carlo Ancelotti n'en peut plus des questions sur le nez, sur Neymar. Et puis, 16h55, première question du Kikadi du jour. Vous écoutez RMC, c'est le 2684e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show.
En direct live, en plein milieu de la rédaction d'RMC, toutes les infos que vous n'avez toujours pas entendues sont dans le journal moyen. Deuxième édition.
La suite de cette semaine spéciale, Eric. Le PSG champion d'Europe pour la deuxième fois, on appelle ça le back-to-back.
Oh, oh le champion d'Europe, back-to-back.
C'est long, je suis même de croix.
Et oui, on compatit, Eric. Hier, débat génial dans Rotten sans flamme. Très bon débat. Le PSG a-t-il conquis le cœur des Français ? Avec Eric Dimeco qui est présent. Eric, tu racontes.
Faudrait qu'on le fasse, ça, ce débat.
Eric, tu racontes une magnifique anecdote. Tu racontes que, en France, en général, il y a l'effet PSG sur les enfants, forcément, sur les petits garçons, les petites filles. Et que même à Marseille, pas beaucoup, mais ça n'arrivait jamais, tu commences à voir quelques maillots du Paris Saint-Germain. Je ne trahis pas tes propos, Eric. Hein. Et tu racontes que tu as déjeuné avec un de tes amis marseillais. Tu dévoiles pas son identité. Et il tente d'éviter que son fils devienne supporter de Paris, ce qui serait un drame familial, j'imagine. Et c'est original la tactique qu'il emploie. Alors, juste, il y a un défaut, c'est qu'il ne faut pas que le petit garçon grandisse trop vite et qu'il regarde les vrais matchs. Vous allez tout comprendre en écoutant l'anecdote d'Eric. Eric Dimeco raconte son ami qui veut tout faire pour éviter que son petit garçon devienne amoureux de Paris.
Encore aujourd'hui, j'ai mangé avec un copain qui m'explique que pour pas que le gamin bascule supporter du PSG, il lui fait voir des matchs de l'époque, à lui faisant croire que c'est maintenant. Mais c'est la vérité, la culture club, ça se transmet de père en fils.
C'est incroyable, c'est très risqué comme technique. Alors, parce que Eric, je pensais, le petit garçon il va grandir. Tu lui montres des images de Moser en défense centrale et il voit jouer Balerdi. Il va avoir un choc thermique.
Non mais alors en réalité c'est ce que j'ai raconté la réalité, sauf que j'ai mixé deux histoires. C'est-à-dire j'ai mixé une histoire de copain qui montre les vieux matchs de l'OM sans dire que c'est
des vieux matchs.
Mais pour que le petit pour la culture, il montre les vieux matchs pour lui apprendre l'histoire du club et pour l'accrocher et un autre copain qui lui pour pas se faire subir.
C'est génial.
Il lui montre les matchs, il lui faisait croire que c'est maintenant.
Petit te voit en vrai, tu sais, t'invites à manger chez lui, c'est pas possible.
Le mec, il arrive dans la DS à la maison, il rentre avec la DS de Fantomas.
C'est des tout petits Citroën.
Ils vous le feront payer tout ça, Eric. Ça, il va y avoir des séances de psy après. Toujours, il y a plein d'histoires autour de la finale. Franchement, la pré-finale, il se passe plein de choses. Le héros malheureux du match s'appelle Gabriel, le Brésilien qui a raté le dernier tir au but dans les nuages. Eh bien, les supporters d'Arsenal qui ont l'habitude de perdre ne lui en veulent pas. Au contraire, Vincent, selon The Athletic, en 48 heures, les ventes de son maillot avec son nom ont augmenté de 350%. C'est-à-dire qu'ils ont été vendus deux fois plus que n'importe quel autre maillot durant tout le week-end de Ligue des Champions. À partir du moment où il a loupé le tir au but, pour lui rendre hommage, pour le soutenir, les supporters ont acheté son maillot. Ce sera le maillot le plus porté à l'Emirates.
Il n'y en a pas un qui a été acheté à Marseille, je te le dis.
Non, ça c'est
ouais. Oui, c'est sûr. Oui.
Et puis le Paris Saint-Germain, vous avez noté qu'il y avait un nouveau maillot, mention back-to-back, le maillot avec les deux étoiles, rupture. Entre 21h et 23h et minuit samedi, il y avait 30 000 maillots écoulés sur le site du club. Derrière, rupture pour l'instant. C'est très compliqué de le trouver. Voilà, c'est la folie.
Et sur ces sur ces histoires de maillots, c'est comme pour l'équipe de France, là, j'ai jamais compris pourquoi ils en font pas 500 000.
Ben oui, super.
Pourquoi, pourquoi
tu es obligé de les fabriquer avant et oui, si ils en perdent, tu jettes tout à la poubelle. Ah, oui, oui,
et c'est-à-dire que dans le monde actuel, Nike n'est pas capable de fabriquer en 3 jours 500 000 maillots.
Non, il pourrait les vendre avant de les produire et les livrer dans 5 mois peut-être, mais bon.
D'accord. Non, non, mais c'est une question que je pose. Je connais pas le business.
Tu l'as pas, Pierrot, toi.
Du textile.
Eh ben, figure-toi que j'ai essayé de l'acheter pour mon fils. Ouais, j'y suis allé à 23h, il n'y avait plus rien. Voilà.
Ouais. Trop tard.
Et puis, attends, je sais que vous aimez les performances physiques. Il y a un chiffre qui est tombé. Vous allez me dire si ça vous impressionne ou pas. Quel est le joueur qui a le plus couru sur le match PSG Arsenal selon
Neves?
Neves pour Denis.
Attends, je l'ai vu cette stat. Enfin, je l'ai vu à un quart d'heure de la fin, il y avait 14 km, je crois que c'était Neves.
Varache Veilla pour Vincent.
Non, il est sorti.
Eric.
Merde. Je sais pas.
Il n'a pas vu le match.
15,4 km, c'est le record pour un joueur du PSG cette saison en Ligue des Champions, monsieur Désiré Doué.
Ah ouais, Doué. Ouais,
Doué, il s'envoie quand même, hein. Ça court. 15,4 km.
Il a joué les 120 minutes.
Il détient le record en Ligue 1.
Ah, mais oui, c'est vrai qu'il y a sa même minute.
Mais
oui, Varache est sorti.
Non, mais c'est quand même significatif. Des efforts que font les attaquants dans ces attaquants.
Oui, en général, c'est un milieu de terrain plus défensif qui court plus. Sans transition, c'est la Coupe du Monde. États-Unis, Mexique, Canada, dans 9 jours. Des nouvelles du Brasil.
Aïe, 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 oui, oui. J'ai parlé français.
Profitez, on est champion d'Europe!
Bonjour, ça va?
C'est pas une excuse. Excuse.
Ça va bien.
Ou bien spécial.
Vincent, le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, n'en peut plus des questions des journalistes sur le mollet de Neymar, qui est blessé au mollet. Là, il y a un journaliste qui lui a demandé si vous aviez su qu'il avait une blessure de grade 2, est-ce que vous l'auriez sélectionné, est-ce que vous l'auriez pris dans la liste des 26. Et Carlo, il lève le sourcil encore plus haut que ce qu'il n'est levé d'habitude. Foot, et là, ça s'enlève. Et du coup, il décide, pour s'en sortir, de citer un dicton italien que je ne connaissais pas. Dicton italien de Carlo Ancelotti, le tout en brésilo-espagnol. Question du journaliste.
Quel idiot, le Sr. Sobeste, que la Légion era un grau 2 et non un
étrier. Sélectionneur.
Le Sr. teria convocado Neymar. Obrigado.
Non sabe que se dice en Italia.
Alors, dicton italien.
Se mio bello tenia la rueda, si mio bello, mio avò, tenia la rueda, era un carro.
No. Si mon grand-père avait des roues, ce serait une voiture. C'est incroyable. Si mon grand-père avait des roues, ce serait une voiture. Et franchement, en plus, il est bon parce qu'il est quand même copain avec les journalistes brésiliens pour le moment. Donc, ils sont tous marrés, ils ont tous applaudi parce qu'ils sont conscients, Vincent, les journalistes, qui commencent à saouler Carlo avec le mollet de Neymar.
Bien sûr.
C'était tout le problème de
c'est du showbiz.
Le sélectionner, de toute façon.
C'est que Carlo, il est dans le sport, il prépare une Coupe du Monde, là, c'est du showbiz, quoi.
Ça te prend la tête pour un problème parmi tant d'autres, en fin de compte.
Mais non, mais il a 30 mecs. C'est qu'il a 30 mecs à gérer.
Parce que la question d'une blessure d'un joueur, c'est la Coupe du Monde.
Quand je te dis c'est du showbiz, c'est-à-dire que c'est un acteur. Là, on focalise sur un mec, alors qu'on doit focaliser sur 30. Et là, on est dans le showbiz, c'est-à-dire, est-ce qu'il va venir à Cannes ou il va pas venir à Cannes?
Tu comprends ce que je veux dire? La blessure de Zidane, c'était pareil. Le seul problème, c'est que ça focalise l'attention, alors que pour le sélectionneur, il y a d'autres cas à gérer. Mais ça en fait
priorité,
partie.
Non, il y a le président de Provence Rugby qui nous écoute, Denis Philippot. Donc, finale, quand même, Vannes, Provence Rugby, samedi.
Demain, je crois que c'est à Toulouse. On va recevoir Philippe
Saint-André
dans Moscato
Show, Eric. C'est première pas à Philippe, parce que j'avais dit, si vous voulez. S'ils avaient des roues avec sa Provence, ça serait le Stade Toulousain, tout simplement.
Kikadi, la première citation du Kikadi du jour. C'est un sentiment un peu irréel de partir de France, d'arriver dans le bureau de Trump. Et de me dire que les gens du monde entier allaient me regarder derrière lui.
Gann. Je savais, peut-être.
Cyril Gann, notre champion de MMA qui va combattre Vincent à la Maison Blanche et il est en train d'halluciner. Il se dit c'est pas possible ce qui est en train de m'arriver.
Le tennis, Zverev Rodar, Eric Salio.
2-7-0 pour Sacha Zverev, 7-6-3. Il a le break dans la troisième manche, donc il se dirige vers une nouvelle demi-finale à Roland-Garros. 3-2 dans le troisième.
Il y en a qui sont reçus par Trump. Vincent, nous, on a reçu Trump.
Oui, monsieur, ça c'est pas pareil. Il s'est battu pour attraper le micro du pauvre Arthur.
Il lui a bien attrapé le micro.
Il a fallu qu'il se baisse. Parce que...
Allez, bon. Dans un instant, le Racing joue-t-il avec le feu? C'est le rugby, c'est le top 14, à tout de suite.
Allez, on revient tout de suite dans le Super Moscato Show.